Game Radio.
Dans un futur proche, certaines personnes s'adonnent à un jeu de réalité virtuelle. Les émotions qu'ils procurent créent une dépendance.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Game Radio. On est mardi, deuxième podcast de la semaine, le podcast 53. On tient la route, on continue. Chaque jour, vous nous retrouvez sur Game Radio pour une nouvelle émission. En tout cas, c'est le défi qu'on s'est lancé. Et aujourd'hui, Shoham, bien entendu, est avec moi, fidèle au poste. Shoham, salut.
Salut. Ça va?
Bah oui, ça va bien. Ça va bien. Et puis alors, aujourd'hui, on a le bonheur d'accueillir Panda de Gamerside.
Salut.
Bah quel bonheur, quel plaisir de nous ouais, vraiment. Moi, je suis ravi de t'accueillir dans cette émission. Je t'avoue un petit peu stressé parce que alors là, vous êtes mes modèles actuellement. Oh. Alors de recevoir Panda de Gamerside sur Game Radio.
Dit-il après presque le double de nos podcasts.
Ouais, mais alors c'est pas la qualité qui fait la quantité hein. Nous en sommes la preuve évidente.
C'est très gentil.
Voilà, nous on en fait beaucoup pour pas grand chose. Bon,
c'est le premier invité de Gamerside qu'on a dans un podcast Game Radio.
Voilà, qui fait quelques infidélités à son équipe. J'espère que tu n'auras pas de représailles suite à ça.
On m'a promis des coups de bâton, mais bon, voilà.
Bon, c'est pas très grave.
Rond, ça devrait aller.
Je crois que t'es habitué d'ailleurs.
Ouais.
Très bien. Donc, une émission un petit peu particulière aujourd'hui parce qu'on va, bon, comme d'habitude, d'abord s'intéresser aux news les plus récentes de l'univers du jeu vidéo. Donc, ce qui s'est passé là, ces 48 dernières heures. On ne parlera pas de tout, mais en tout cas d'une sélection d'infos. Et puis, la deuxième partie de l'émission, on la consacrera à une annonce qui a un petit peu chamboulé le monde des médias consacrés aux jeux vidéo. Une nouvelle fois d'ailleurs, puisque c'est un truc qui est assez récurrent en ce moment. Puisqu'après la chaîne No Life, après Gamekult, qui avait fait parler de lui un petit peu de la même façon, Gameblog va devenir payant. A priori, je dis pas pourrait devenir, va devenir selon moi, on en reparlera tout à l'heure. En deuxième partie d'émission, donc, on va simplement discuter entre nous, hein, parce qu'on aime beaucoup Gameblog, hein, on le rappelle. Pour nous, ce sont même des modèles, principalement leur podcast d'ailleurs pour ma part. C'est vraiment ce que j'apprécie chez eux. En tout cas, voilà, on va essayer de comprendre, d'analyser pourquoi est-ce que Gameblog proposerait à l'avenir une formule payante, un abonnement à ses lecteurs. Voilà, si vous voulez bien. En tout cas, c'est ce qu'on a prévu.
Moi, c'est avec un grand plaisir, surtout qu'il y a de quoi dire, hein. Il y a de quoi parler, et ça, c'est une bonne chose qu'on en parle.
D'ailleurs, j'ai convié Panda dans cette émission pour que lui aussi apporte sa pierre à la réflexion. Je pense que toi aussi, t'as deux trois choses, deux trois avis sur le sujet.
Bah, c'est vrai que c'est sans rentrer dans les détails, c'est une sorte de petite tornade dans l'univers vidéoludique, dans le paysage des sites français. Ça fait un peu l'effet d'une bombe, j'ai l'impression.
Ouais, et puis il suffit de regarder donc le fil des commentaires suite à l'article qui a été mis en ligne hier soir. Tu peux réactualiser la page toutes les deux minutes. T'as 5-6 nouveaux commentaires. Ça n'arrête pas. Je crois que ça a dépassé les 450 là. En moins d'une nuit, hein, et ce matin ça n'a pas arrêté. Donc vraiment, les gens sont, enfin ça fait réagir. On a eu envie nous-mêmes de réagir, mais on va garder ça pour un tout petit peu plus tard. On va commencer donc tout de suite avec les infos les plus récentes. Je voulais avant ça, oui, ici revenir sur des chiffres. Je t'avais demandé de faire une petite recherche Shoham hier. Ça concernait, voilà, on vous avait annoncé qu'il y avait à peu près que les Français dépensaient, j'ai plus les chiffres d'hier, mais en gros 8-9 euros par mois dans des MMO,
enfin bon, 8,72 euros exactement.
Ouais, merci. On s'était posé la question de savoir quelle était la part de WoW dans la plupart des chiffres qu'on vous a donné hier. Donc réécoutez le podcast d'hier et voilà, je vais vous donner un chiffre. WoW, c'est à peu près 62% des parts de marché du MMO en France ou dans le monde d'ailleurs.
Dans le monde. Hein,
bon, parce que on peut penser qu'en France, c'est
Les autres MMO qui sont représentés, ce sont pratiquement que des MMO coréens. Je parle bien sûr de Lineage 2 et Final Fantasy 11. Donc c'est pratiquement que des Coréens qui jouent à ça.
Ouais, donc il y a à peu près 6-7 euros par mois qui sont dépensés dans World of Warcraft par Français. Enfin non, je sais plus le chiffre, 160. Quel était le chiffre d'hier? Je les ai plus. C'est pas grave, tant pis. Il suffit de réécouter le podcast de la veille.
150 millions d'euros.
Ok, voilà, très bien. On continue avec une autre info dont on vous a parlé hier. Donc Gears of War 3 est bel et bien confirmé pour 2011. On a même une date, c'est le 8 avril prochain que le jeu devrait débarquer chez nous. Donc dans un peu moins d'un an maintenant, l'attente va être longue. Gears of War 3, tu aimes bien toi, Panda?
J'avais pas fait le 1.
Pardon, Gears of War 2, j'ai dit Gears of War 3, c'est Gears of War 2. Oui, vas-y. Bah,
j'ai fait le 2 avec vraiment beaucoup de plaisir. J'avais trouvé ça super arcade, mais en même temps, c'est une belle aventure à vivre. Et du coup, ayant commencé par le 2, j'ai pas voulu, trouver le 1 en occasion en me disant que j'allais peut-être forcément être déçu. Parce qu'a priori, c'est une série qui s'enrichit à chaque épisode, donc je voulais peut-être pas vivre une expérience moins intense que celle du 2. Mais en tout cas, ouais, pour moi, c'est une annonce super intéressante, parce que évidemment que je serai sur le 3.
Ouais, bah écoute, si tu trouves le 1 en occasion, n'hésite pas, parce que le solo est quand même intéressant, t'as de la coop, et ça vaut largement le détour. Le 1 n'a pas du tout à rougir face au 2, en tout cas. Enfin, c'est mon avis personnel. Je sais que toi, tu joues beaucoup sur Xbox 360, donc c'est pour ça que je te posais la question. Et là, on a une autre date confirmée, hein, en tout cas le nom d'un jeu, ça y est, c'est sûr, on en a parlé hier. Tu vas me dire si je le prononce bien cette fois, j'ai répété toute la nuit, c'est Bulletstorm. Non, Bulletstorm.
Bulletstorm.
Bah, je l'ai refaite, en fait. Donc, qui sera bel et bien un FPS. C'est prévu pour 2011. On n'a pas la date exacte de sortie. C'est, comme on vous le disait hier, le studio People Can Fly qui avait développé Painkiller et aussi Hellwars qui va sortir ce jeu. Donc, sur Xbox 360. Voilà, ça arrivera l'année prochaine. On a quelques infos, d'ailleurs, sur Bulletstorm. Oui.
Alors, concernant Bulletstorm, ça va se passer dans le futur, exactement au 26e siècle. Et donc un héros bodybuildé et va devoir a été exilé sur une autre planète qui s'appelle Ishi Sato, il me semble, et il va devoir affronter donc des hordes de mutants qui et avec cet affrontement, il va faire des missions pour pouvoir partir de cette planète et se venger de la personne qui l'a exilé.
Ok, moi voilà. Ce que je savais, c'est que le jeu allait utiliser le Unreal Engine 3.
Donc, exactement.
Voilà, et qu'il devrait proposer un gameplay nouveau, en tout cas au niveau du tir. Hein, ce sera un FPS nouvelle génération. Donc là, qu'est-ce qu'on peut imaginer? J'en sais rien. En tout cas, j'ai hâte de voir ça.
On n'en sait rien pour l'instant. Pour l'instant, on n'a qu'un artwork, ce qui a été diffusé.
Peut-être que ça va utiliser Natal, qui sait.
Ah,
parce
peut-être,
que, parce
ouais,
que là, à vue de nez, on parle de, en tout cas pour Gears of War 3, c'est sûr, mais on parle de deux exclus 360, à mon avis.
Non, là, c'est un titre qui va sortir sur PC, PS3 et Xbox 360.
Ok, très bien. Bon.
Le héros s'appelle Grayson Hunt. Voilà, je viens de le trouver.
On a même le nom du héros. Parfait. Autre grand héros de jeu vidéo qui fait son retour. Enfin, en tout cas, c'est une réadaptation HD d'un vieil épisode. Serious Sam HD The Second Encounter arrive là à la fin du mois. On a la date, c'est le 28. Les joueurs PC pour le moment pourront profiter de cette réédition haute définition. Le jeu est aussi prévu sur 360, mais on n'a toujours pas la date de sortie. Je rappelle que Serious Sam HD, on a un Game Radio Online hein, sur le jeu, là, il doit traîner dans les archives de Game Radio. Et c'est un jeu que moi, personnellement, pour ma part, j'ai beaucoup aimé et qui était très agréable à faire en coopération sur le Xbox Live. Donc je ne peux que le conseiller. D'ailleurs, j'ai hâte que ce deuxième volet sorte lui aussi. Panda, Serious Sam, ça t'inspire quoi?
Alors je l'ai pas essayé, il y avait quelqu'un de plus ou moins proche de la team qui s'appelle Ponche qui avait fait un article sur le sujet chez nous. J'ai chopé la démo, j'ai pas essayé encore de m'y mettre, mais je pense qu'à mon avis c'est genre typiquement de réadaptation qui est bien plus réussi que par exemple Perfect Dark. Apparemment marche moins bien, j'ai l'impression.
Je confirme. Alors, je sais pas si ça marche moins bien parce que Serious Sam HD a pas tellement bien marché hein. Mais moi, pour ma part, je me suis beaucoup plus amusé sur Serious Sam HD que sur Perfect Dark, ça c'est certain.
Et tu connaissais le jeu original?
Je connaissais le jeu original, ouais. C'est un des FPS auquel j'avais joué sur PC. Et puis, j'ai beaucoup apprécié les autres volets. Ceux qui étaient sortis sur console étaient déjà très sympas. Moi, j'avais même beaucoup apprécié un des épisodes qui était sorti sur GameCube. C'était je sais plus lequel voilà, ça m'échappe, en tout cas il avait été, moi j'avais trouvé très fun, hormis le multijoueur qui était un peu absent.
Je pense que le problème en réalité c'est que Perfect Dark t'as assez mal vieilli, étant donné qu'il y a des titres qui reprend un peu son concept et qui est bien plus réussi après la sortie de Perfect Dark, alors que Serious Sam finalement il n'y a pas beaucoup de titres qui a le même humour, qui a la même patte.
Puis Serious Sam, sa jouabilité était déjà super. Donc, à adapter un jeu d'aujourd'hui, c'était pas grand chose à faire. C'était déjà super jouable. Tandis que Perfect Dark, déjà à l'époque, souvenez-vous, c'était, même si on s'est bien amusé avec, sur Nintendo 64, c'était pas exceptionnel. On avait qu'un seul stick analogique. Tandis que là, Serious Sam HD, il était déjà adapté souris, clavier. Donc, il y a beaucoup plus évident, je pense, à réadapter à la jouabilité d'aujourd'hui. Enfin, ça se prend en main tout de suite et sans problème, quoi. L'autre avantage de Serious Sam, en plus de son mode de coopération à 4, qui est vraiment fandard et fun, c'est que c'est vraiment un initiateur du mode horde, tel qu'on peut le voir aujourd'hui dans plein de jeux. T'arrives dans une zone et t'as des hordes d'ennemis qui t'attaquent et il faut réussir à survivre. Et c'est vraiment, il est vraiment pionnier là-dedans, avec la petite décharge d'adrénaline qu'on a quand t'es submergé, quoi. Et ça, c'est vraiment, vraiment.
Je te lance du Left 4 Dead, quoi.
Oui, non, c'est pas un jeu.
L'ancêtre du Left 4 Dead.
Ouais, un peu. L'ancêtre coloré de Left 4 Dead. Coloré et décalé. Voilà pour Serious Sam. Autre info dont moi je voulais vous parler. On a un nom pour ce qui, s'apparente un petit peu au Nunchuk du futur PlayStation Move. Vous savez, le PlayStation Move, c'est ces fameuses manettes à contrôle de mouvement pour la PlayStation 3. Ça nous permet de jouer devant notre télévision debout un petit peu comme on le fait sur Wii. Donc le mouvement sera reconnu. Donc on sait déjà, il y a deux espèces de... Je pense que sur Gamerside, on parlerait de Godmiché tout de suite, mais je vais peut-être pas oser le dire.
Il y a de fortes chances.
Il y a de fortes chances, voilà. Deux espèces deux contrôleurs de mouvement avec des grosses boules de couleurs. Ben, en fait, vous pourrez aussi jouer avec un contrôleur dans une main et de l'autre, ce qui s'appelle en fait le navigation contrôleur, qui est en fait un Nunchuk, sans fil celui-là, et qui a une croix multidirectionnelle et un stick analogique. Quelques boutons. Donc en fait, ça permet de se déplacer, par exemple dans un FPS ou dans certains jeux d'aventure, on peut se déplacer grâce à ça et en fait, le mouvement n'est plus contrôlé que par la main droite qui tient le PlayStation Move. Est-ce que j'ai été clair? J'en sais rien, c'est un peu confus.
Ouais,
complètement,
en tout cas,
j'étais super confus.
ça me fait plutôt rire parce qu'en réalité, ce que tu dis, c'est le Nunchuk, quoi. Enfin,
ah oui, tout à fait.
Il y a rien d'extraordinaire et je trouve ça génial de dire, oh, c'est extraordinaire.
À la différence.
C'est un truc qui...
Non, j'ai pas dit que c'était extraordinaire. J'ai dit justement,
non, pas du
au
tout.
Contraire.
Non, c'est pas toi, mais c'est les gens.
Oui.
Sony.
La seule chose grave, c'est que pour donner un nouveau nom à cet appareil, ils sont obligés de préciser que c'est une espèce de Nunchuk. En fait, ils sont obligés d'utiliser les termes inventés par Nintendo et la Wii.
Ah bah non, c'est moi ça.
Ça va être. Non, mais c'est ce que je lis aussi sur les news.
Ah, d'accord, ok.
Alors, il y a entre guillemets en disant oui, bah, c'est le Nunchuk de Sony. Ouais. Ce qui prouve bien que Sony, c'est super. Enfin, c'est très largement inspiré de Nintendo sur le sujet. Et bon, je trouve qu'il faut avoir les couilles hein, de pomper à ce point un concept concurrent, quoi. Et, ouais.
Bon, il faut effectivement rendre à César ce qui est à César. Mais moi, je tiens quand même à rappeler que. Il y a une petite différence, c'est que le PlayStation Move va être associé à une caméra. Et ça, c'est important de le rappeler, ce qui n'est pas le cas de la Wii avec le Wiimote et tout ça. Là, on a une caméra qui, en plus, permet une reconnaissance dans l'espace. Donc, en fait, la caméra va permettre de capter les bouboules de couleurs et ça va permettre à la PlayStation de savoir où tu te situes dans la pièce, en hauteur, en bas, en profondeur.
Donc, je sais pas parce que ta sensor bar que de la Wii, elle fait pareil. Hein.
Je suis pas sûr que ça marche aussi bien. Et de la même façon.
Je reste peu convaincu, moi, du concept, en fait. À l'avenir, j'ai vu une démo comme ça avec quelques types de jeux. Je sais pas s'ils trouveront leur public, en fait. C'est juste ça qui m'inquiète, quoi.
En tout cas, moi, ce que j'ai appris là récemment, c'est qu'il y a pas mal de jeux qui vont être adaptés. Il va y avoir des mises à jour sur certains jeux existants, comme Little Big Planet, qui vont être adaptés à cette jouabilité.
Mais des jeux qui sont adaptés, c'est-à-dire c'est des jeux qui, à la base, ne sont pas conçus pour ça et qui, finalement, ils vont greffer une espèce de mode, je sais pas.
A priori, c'est ce qui est prévu sur Heavy Rain.
En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que d'un côté, on a la 360 avec une caméra, de l'autre côté, on a la Wii avec un Nunchuk et un Wiimote, et au milieu, on a la PlayStation qui propose, entre guillemets, une espèce d'union un peu bâtard des deux, quoi, avec Nunchuk, Wiimote et caméra. Donc on verra bien lequel est le plus jouable, le plus passionnant, le plus intéressant, le plus adapté au hardcore gaming, parce que c'est un petit peu la question qu'on se pose.
Il y a qu'une seule chose à dire, en fait, c'est simplement sans jeu, la puissance n'est rien. On va voir les jeux.
Aussi, tout à fait, on verra les jeux. Voilà, moi je voulais aussi vous signaler que si vous n'avez pas encore craqué pour DJ Hero, ce qui est mon cas et j'ai failli le faire le week-end dernier, qui coûte encore 100€, ce qui est quand même pas rien, c'est un budget. Vous pouvez le trouver sur le Toys R Us américain pour à peu près $50, donc ça fait à peu près 40€ si mes calculs sont bons. Donc la table de mixage et le jeu, voilà, c'est une petite news que je voulais glisser comme ça. C'est une bonne affaire. Je crois que Schwam, tu voulais nous reparler de Modern Warfare aujourd'hui encore.
Podcast Game Radio sur Modern Warfare, c'est plus un podcast. Pour plus sérieusement, il s'agit de Modern Warfare 3 cette fois-ci, et même plus généralement de la licence Modern Warfare. puisque comme on le sait déjà depuis quelques jours, les créateurs donc de la série qui et de, plus généralement de Infinity Wars, les ex-patrons, il s'agit de Jason West et Vince Zampella, ont créé une nouvelle boîte qui s'appelle Respawn Entertainment et vont créer des jeux pour EA, donc pour Electronic Arts, et sont actuellement en procès avec Activision pour récupérer la licence Modern Warfare.
Tu dis pas EA, toi ?
Oui, EA, oui, bon.
Bon, c'est pas grave.
Je suis en France. Hein.
EA Games.
Bref, EA Games. Donc voilà, c'était intéressant de voir que, évidemment, quand il y a des gros sous et il s'agit d'affaires de gros sous, bah
oui, puis en même temps,
il y a toujours des procès, des couacs, des trucs comme ça. Quoi.
Et en même temps, ce sont un peu les parents du jeu, donc c'est normal qu'ils aient envie de récupérer leur bébé. C'est un petit peu
oui, mais alors c'est là que se pose la question de savoir, est-ce que l'éditeur, finalement, a un droit sur la licence qu'il a lancée, parce que finalement c'est lancé quand même sous le nom d'Activision, même si Infinity Ward reste les développeurs, donc il s'agit de savoir qui a le droit finalement d'utiliser la licence Modern Warfare lorsque les deux divorcent.
Ton avis, toi, Panda, sur ces histoires de couple dans le jeu vidéo, ces divorces
dans
comme
le
ça.
Jeu vidéo, c'est peut paraître un peu con ce que je vais dire, mais je me suis jamais vraiment soucié de qui faisait quoi, si tu veux. J'ai toujours eu ce problème même d'aller voir des films sans savoir qui le réalisait parfois, tu vois. Donc j'avais juste suivi l'affaire Pixar-Disney à une époque, qui était assez flippant parce que si Pixar quittait Disney avait le droit de faire un Toy Story 3, 4, 5 s'il le voulait. Donc
c'était super flippant.
C'est plutôt quelque chose qui m'effraie d'une manière générale, mais en même temps, qu'est-ce que les gens peuvent y faire, tu vois, c'est ils ont besoin d'eux pour pouvoir éditer leur jeu et en même temps ils ont l'éditeur a finalement tout pouvoir, quoi.
Ouais, ce sont les coulisses entre guillemets de l'industrie. Bon, c'est pas forcément très intéressant. C'est vrai que même moi, j'avoue, ce qui m'intéresse, c'est de jouer avant tout et d'avoir des jeux après. Effectivement, comment ça se passe derrière dans l'arrière boutique. Mais bon, c'est quand même important. Parfois, ça intéresse des gens en tout cas. Choix, mais apparemment, toi, ça t'intéresse.
Et surtout qu'il y a déjà eu une autre affaire comme ça que vous devez savoir, que vous devez connaître, c'est l'affaire Far Cry.
Ah non, vas-y.
Ubisoft et Crytek. Tout simplement, Crytek a créé la licence Far Cry avec Ubisoft. Ubisoft a édité le jeu. Et lorsque Crytek a voulu se séparer d'Ubisoft pour être édité par Electronic Arts, ils ont essayé de récupérer la licence Far Cry pour faire un Far Cry 2. Sauf que Ubisoft a fait un procès pour pouvoir garder la licence sous leur bannière, et il s'avère que finalement, comme on sait, Ubisoft a gardé la licence Far Cry, pour pouvoir faire un Far Cry 2 sans Crytek.
En fait, tu vois, moi je t'écoute, et en fait j'ai même du mal finalement à retenir réellement l'info, tu vois. À un moment, j'ai mon cerveau qui se commute vers autre chose. Je suis désolé.
C'est un peu le problème qu'il y avait eu pour Fallout, je crois que le dernier.
Fallout aussi, ouais. Exactement. Là, mais Fallout, c'est un peu différent. C'est un peu différent, Fallout, parce que l'éditeur Interplay était presque un éditeur mort, en fait. Il n'y restait plus que cette licence. Donc là, les enjeux sont différents, alors que Bethesda est une espèce de grosse machine énorme qui rapporte beaucoup de sous, donc c'est un peu différent.
Ouais. Allez, on va passer une info réellement vidéoludique. Tu voulais nous parler d'un jeu qui s'appelle Splatterhouse, dont j'avais entendu parler, effectivement. Dis-nous tout.
Alors, Splatterhouse, c'est une vieille, très vieille licence. Là, je pense que Jarel serait très content qu'on parle de Splatterhouse, parce que c'est un vieille licence qui a eu 3 épisodes sur les anciennes consoles 8 bits et 16 bits. Et il s'agit en fait, pour dire rapidement, d'une licence de jeux vidéo avec un personnage de film d'horreur. Le personnage est un gros bodybuildé avec un masque de hockey de hockeyeur qui ressemble beaucoup à Freddy.
Un Jason protéiné.
Jason protéiné qui massacrait des zombies à tout va. Et c'est un des premiers jeux d'ailleurs qui a fait scandale avec du sang, de la violence, etc. Donc c'est assez rigolo. Et donc cette licence-là va être remaké, si je peux dire ça comme ça, en HD, avec de beaux graphismes 3D et une nouvelle histoire, beaucoup de sang encore, comme d'habitude. Et ça va bientôt sortir d'ici quelques mois. Et la bonne nouvelle dans ce moment, c'est que les trois premiers épisodes, donc en 8 bits et 16 bits, vont accompagner le jeu en HD.
Ah, ça c'est bien. Un petit bonus, quoi.
Ça c'est okay. Sympa. Un petit bonus pour les nostalgiques.
Donc ça devrait se
rejouer sur les premiers épisodes.
Non, si on n'a pas la date exacte, en tout cas, on sait que ça sort sur le PSN et sur Xbox 360. En tout cas, sur le XBLA. Ce sera un jeu Xbox Live Arcade et ça sort là dans quelques mois. Je pense qu'on a tout dit sur Splatterhouse.
Splatterhouse, j'ai tout dit, oui.
Ouais. Moi, je voulais juste rappeler une autre chose, c'est que demain, couvre le musée du jeu vidéo. On a fait c'était un des éléments d'un podcast de la semaine dernière, je sais plus, avec l'interview de Jean-Philippe Alba. Et donc ça y est, ça ouvre ses portes demain. Donc j'espère que si vous êtes sur Paris, vous serez nombreux à aller visiter ça. Je rappelle que c'est aide-moi, Choam, j'ai oublié.
C'est en haut du toit de l'Arche de la Défense.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
En haut du toit de l'Arche de la Défense.
C'est 10€ pour rentrer sur le toit et après on a accès à tous les expos.
Dont le musée du jeu vidéo et le musée de l'informatique qui est juste à côté. Voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes à Paris et que vous jouez aux jeux vidéo, allez-y ou pas d'ailleurs. Mais bon, à mon avis, si vous écoutez Game Radio, c'est que vous avez joué un tant soit peu aux jeux vidéo. Très bien, voilà pour les dernières infos du jour. En tout cas, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. En tout cas, moi, j'ai parlé de ce dont je voulais vous parler. Choam, toi aussi?
Oui, tout à aujourd'hui, fait. Voilà. J'ai parlé de tout ce que j'avais à dire.
Peut-être qu'on peut se retourner vers Panda, parler deux secondes rapides de Gamerside. Alors là, on a une flopée de podcasts qui débarquent sur le site quasiment tous les jours. En fait, ce sont vos anciens épisodes que vous nous proposez enfin.
En fait, on avait voulu, un peu comme beaucoup de sociétés de jeux vidéo, ressortir nos podcasts en version HD. Non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, on avait un site que je faisais à la main en HTML avec mes petits logiciels. C'est un peu pourri. Et quand on a décidé d'avoir une plateforme de blog pour que chacun puisse écrire plus librement, et ben on était déjà au 15e ou 16e podcast.
Et vous n'avez pas rapatrié tout de suite la totalité de vos anciennes productions.
On a voulu aller en allant tout de suite balancer les nouveaux. Et puis, on a toujours dit que les anciens, on les mettrait petit à petit. Et du coup, là, comme je suis en vacances, j'en profite pour diffuser tous les anciens. Et on en profite aussi pour faire une petite pause dans nos podcasts actu et on reprendra ça la semaine prochaine.
Donc là, de toute façon, donc si je calcule bien, il y a à peu près 16 émissions qui vont certainement débarquer dans les jours qui viennent. Enfin, en tout, ça fera à peu près 16 nouvelles émissions.
Ouais, voilà.
Ça fait quand même des heures de podcast, hein. Faut trouver le temps de les écouter. Voilà, c'est un marathon. Il faut s'organiser. J'avoue que moi, j'ai dû lâcher, mais je prendrai le temps d'écouter la suite et on a hâte de vous retrouver en tout cas pour maintenant. Je crois que le prochain sera le 27e épisode. 28?
Ouais, c'est ça. 27 ou 28, je l'ai plus en tête.
Ou 26 même peut-être.
Faut que je regarde ça, mais en fait c'est vrai que je suis un peu.
Tu t'es déconnecté. Ouais.
Vacances, j'oublie tout. Je suis vraiment un peu à l'ouest, mais.
Comme la chanson, très bien, pas de souci. Non, mais voilà. Donc n'hésitez pas, Gamerside. Il y a du podcast à foison et ça va pas arrêter. Je pense dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent. Et puis c'est toujours ça doit être les premières émissions. Bah la qualité est là, le fun est là. Il y a déjà tout le contenu qu'on aime aujourd'hui dans les podcasts les plus récents. Les game blagues, mais c'est pas les game blagues, les séries, hein, Dead Space et autres publicités bien décalées qu'on aime retrouver dans vos émissions.
C'est vrai que ça a l'avantage sur certaines privates, voilà.
Ah oui, effectivement.
Ça peut avoir le coup de réécouter les premiers, ne serait-ce que pour comprendre certaines vannes qu'on a dans les derniers.
Alors, il y a quelques running gags, hein, qu'on retrouve systématiquement, et puis on comprend mieux, effectivement, déjà, qui sont les intervenants, qui vous êtes, vos passés de joueurs respectifs, et puis, effectivement, on comprend mieux certaines vannes qui arrivent dans les podcasts les plus récents, et ça pouvait nous échapper parfois. Ça, c'est sûr. Très bien. Bon, allez, on passe à la suite de cette émission. Comme on vous l'a annoncé dans le sommaire, on va donc parler de ce qui aurait pu faire l'objet d'un chouette poisson d'avril, en fait. Hein, à quelques jours, on aurait pu croire à une bonne blague. Une game blague, d'ailleurs, voire un versus, hein, pour ou contre, puisque Gameblog vient d'annoncer qu'il allait devenir payant. Et je dis pas qu'il pourrait, je dis qu'il allait, selon moi en tout cas, et on va voir si j'ai raison ou pas. Gameblog annonce vraiment qu'une formule payante du site va débarquer. Je pense dans les semaines qui viennent, hein, ça peut s'accélérer, ça peut aller très vite. Donc ça, c'est tombé hier soir. L'article a été diffusé hier soir. Il était accompagné d'un sondage, ouais, on peut appeler ça comme ça, qui propose non pas de savoir si vous êtes d'accord, intéressé ou pas, mais qui propose principalement aux lecteurs de donner leur préférence en ce qui concerne la formule d'abonnement qui sera adoptée, c'est-à-dire le contenu. En tout cas, ce qui pourrait les éléments qui pourraient être accessibles, pardon, aux abonnés et le prix de cet abonnement. En gros, c'est ça.
Ouais.
Alors,
que dire?
Je vais continuer si tu veux bien. On va pas faire. Hein, je tiens à le dire, un procès d'intention. On va pas non plus analyser dans les détails, parce qu'on serait peut-être pas les mieux placés pour ça. On va simplement essayer de comprendre pourquoi l'un des 5 premiers sites français, quand même, faut le rappeler, consacré aux jeux vidéo, va proposer cette formule payante. Et ça nous intéresse d'autant plus que nous, on œuvre un petit peu à notre échelle dans le même créneau. Hein. Enfin voilà, c'est une simple réflexion entre nous, entre potes, hein, parce que c'est quand même le genre de sujet qui demanderait une vraie analyse de fond, je le répète. En tout cas, ça a fait un sacré ramdam. On le voit rien qu'en suivant le fil des commentaires. Hein, vous réactualisez la page, toutes les 2 minutes, vous avez 3-4 nouveaux commentaires sur le site à la suite de l'article. Donc là, grâce à ça, on peut vraiment mesurer toute l'étendue de l'importance de ce genre d'annonce. Et j'ai eu même ce sentiment en lisant les commentaires, qui sont tout aussi intéressants, voire plus intéressants que l'article en lui-même, que la plupart des lecteurs sont en train de régler un peu leur compte avec Gameblog. Il y a pas mal de vérités qui tombent, pas mal de gens qui sont déçus, d'ailleurs une grosse majorité. J'ai vu très peu d'avis disant « Ah oui, hein, c'est une bonne idée, moi il n'y a pas de problème ». En général, les gens en profitent déjà pour dire qu'ils trouvent ça parfois choquant, ou qu'ils sont pas forcément emballés par l'idée. Et parfois même vont très loin dans les remarques et dans les reproches à l'encontre de Gameblog. Est-ce que vous avez ressenti ça vous-même ?
Alors moi j'ai pas pris le temps de lire les presque 500 commentaires qu'il y a eu, parce que voilà, j'ai juste lu la news hier, on en a discuté un peu avec l'équipe. À ce propos d'ailleurs, je précise que ce que je vais dire, je parle pas au nom de Gamerside, hein, sur le coup, hein, c'est vraiment
c'est ton nom propre, c'est toi.
Voilà, ouais. C'est l'avis de Panda, parce que pour en avoir parlé un peu avec l'équipe, les avis sont aussi partagés dans l'équipe.
Oui, en sachant, je tiens à le rappeler aussi, qu'on ne sait pas tous les éléments. On travaille pas avec Gameblog, on n'est pas potes avec eux. Moi, je les connais pas personnellement. Enfin, toi, je sais pas, Panda.
Non,
on donne
non,
un
non,
avis
plus,
qui
non.
est presque... On a peut-être tort de le faire, d'ailleurs. On va peut-être pas le faire, finalement. Non, on va le faire, mais voilà, on n'a pas tous les éléments. Et puis, nos avis peuvent évoluer. Ça se trouve, on va dire un truc aujourd'hui. Peut-être que dans 15 jours, avec... selon comment ça va évoluer, peut-être qu'on aura un autre point de vue là-dessus. Hein, je tiens moi aussi à rappeler ça. Voilà, je te laisse parler, pardon. Ton point de vue alors.
Moi je suis pas... je suis en vacances, hein, y a des téléphones qui sonnent, il se passe plein de choses.
Vie passionnante de Panda.
Voilà. Plus généralement, moi j'ai une conception un peu particulière qui fait que Internet pour moi c'est une source d'échange d'informations et qui à ce titre devrait être gratuite. Alors, il précise bien que le contenu de Gameblog tel qu'on le connaît aujourd'hui le sera, mais je trouve ça un peu rare en fait d'avoir récupéré autant de fans en jouant la carte de la proximité comme ils le font depuis le début, et puis à un moment de se dire bon bah on va peut-être faire une formule premium. Je trouve ça plutôt moyen en fait dans la démarche.
Un sentiment comme ça qu'ils ont un petit peu retourné leur veste.
Oui, alors après je peux comprendre que s'ils veulent garder leur indépendance, il faut avoir des fonds, parce que voilà, c'est des gens qui en vivent. Alors peut-être qu'ils ne vivent pas directement de Gameblog et qu'ils ont d'autres jobs à côté, mais je peux comprendre en tout cas que s'ils veulent continuer à fonctionner sur ce principe-là, en
alors,
sachant que c'est quand même un site
moi,
qui plaît.
Moi, si je puis me permettre, à mon avis, ils vivent de Gameblog. Puis on en a parlé, on va le voir de toute façon. Avant de te laisser aller plus en avant dans ta réflexion et puis de donner aussi la parole à Shoham sur ce sujet-là, moi je propose qu'en fait, que pour guider un petit peu notre réflexion, on suive l'article hein, tel qu'il a été écrit et proposé. Donc je vais le lire tel quel, hein, tel qu'il est sur le site de Gameblog. Ça commence par « Gameblog a besoin de vous ». Donc c'est vraiment limite, enfin quand tu dis Gameblog a besoin de vous, moi je me vois mettre sur Game Radio a besoin de vous, à son échelle bien entendu, c'est vraiment qu'on a le sentiment d'un danger, c'est-à-dire que le site a vraiment besoin financièrement a priori que les auditeurs les aident. Or, le problème, et c'est ce qui a été soulevé par la plupart des personnes dans leurs commentaires, et c'est vrai que c'est la question qu'on peut se poser, où est-ce qu'ils en sont financièrement ? Il y a un vrai obscurantisme quant à leur fonctionnement financier, on sait rien. Enfin, on sait pas grand chose. Moi, j'ai fait des recherches. Ce qu'on sait, on connaît leur capital. Sans limite, c'est pas très intéressant. C'est pas très révélateur de quoi que ce soit. Par contre, ce qu'on sait, c'est leur chiffre d'audience, par exemple. On sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1 million de visiteurs par mois, ce qui est considérable. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Shoham.
C'est absolument énorme pour un site de jeux vidéo, je parle. Hein.
Ouais, c'est quand même pas mal. En sachant que ce qui est important, c'est non seulement les visites, mais on parle de thunes, hein, bien entendu. Il y a aussi les pages vues, le nombre de pages vues. Et a priori, ils sont aux alentours de 5, 6, 7 millions de pages vues par mois. Ce qui là aussi est énorme. Normalement, avec une audience pareille, on sera en droit de se dire que le site, grâce à la publicité, et à mon avis, ils en font, et puis on le voit dans les émissions qu'ils font, il y a des partenariats, faut pas se le cacher, et je pense personnellement que d'un point de vue financier grâce à la publicité, à mon avis. Mais là, une fois de plus, je n'ai pas tous les éléments, mais d'un point de vue extérieur, à mon avis, ils doivent s'en sortir.
Oui, a priori. En plus, la seule chose que j'ai lue sur le blog, c'est que Raon précise qu'ils ont le soutien d'Ankama, la société Ankama. Alors, il dit que c'est un soutien qui est limité et qui leur a juste permis de se développer. Et que, voilà, s'ils veulent garder une entière indépendance, il faut qu'ils trouvent des leviers financiers. Mais est-ce que ces leviers doivent passer forcément par les visiteurs du site? Je sais pas.
Je sais pas. En tout cas, Ankama, oui, tu l'as dit, a rejoint le capital de Gameblog en novembre l'année dernière. Les principaux actionnaires, ce sont bien les chroniqueurs eux-mêmes, hein, sont les journalistes de Gameblog, donc Raon, Angel, Julo, Julien C, ça ils le cachent pas, Trazom, Caffeine, hein, ils le cachent pas, c'est sur leur site. Vous allez dans À propos, vous saurez pas mal de choses sur comment ça fonctionne. C'est donc une société, ils sont tous actionnaires de la société, et Ankama fait partie de ces actionnaires. Donc voilà, on tenait quand même à le signaler. Je pense que l'aide d'Ankama doit quand même être relativement importante. Est-ce qu'ils veulent s'en séparer? Moi, je me rappelle aussi, il faut pas l'oublier, que No Life a été à un moment aussi soutenu pas mal par Ankama. Et je crois
qu'ils sont toujours.
Ah, je croyais qu'Ankama s'était retiré justement et que c'est pour ça qu'ils avaient dû passer à la formule abonnement.
Non, ils seront toujours. Il me semble qu'ils sont toujours dedans, mais c'est pas suffisant. Pas suffisant pour vivre. Ce que leur donne Ankama, hein, je parle. C'est comme une chaîne de télévision. C'est pas les mêmes budgets qu'un site internet.
Tiens, justement, on va parler de ces budgets-là. Donc, un serveur, un site internet, c'est donc un serveur, c'est un web designer, un web développeur, une équipe de chroniqueurs, des locaux, pas forcément très grands, on l'a vu, hein, on le voit dans leurs vidéos, ils sont un petit peu entassés dans une même pièce. Une connexion internet, c'est une caméra, effectivement, c'est peut-être une table de mixage, quelques micros pour faire leur podcast. En soi, est-ce que selon toi, Shoham, qui connaît un peu tout ça quand même, tu penses que c'est un site qui coûte très cher par mois? Bien entendu, alors on parle pas de salaire puisqu'on l'a dit, bon, il y a peut-être des pigistes, hein, y a peut-être aussi des personnes qui sont salariées, mais la plupart des personnes qui travaillent sur Gameblog, a priori, sont actionnaires, donc ne touchent pas un salaire, ils perçoivent quelque chose sur le chiffre d'affaires. Est-ce que selon toi, c'est un site, Gameblog, qui coûte très cher tous les mois à faire vivre?
Je pense pas. Alors, effectivement, ce qui doit coûter le plus cher, c'est effectivement les serveurs. Après, je peux pas comparer le site Gameblog à No Life, tu vois, parce que No Life c'est un autre budget. Donc non, ça n'a pas coûté très très cher. Mais je pense que plus ils auront de gens qui viendront sur leur site, plus ça demandera encore plus de serveurs et qui coûteront cher. Donc c'est aussi, je pense, la raison pour laquelle ils ont besoin de passer payant. Faut pas oublier que Gamekult a fait la même chose.
Alors moi j'ai le souvenir, pour parler de Gamekult, tu fais bien d'en parler, moi j'ai le souvenir que Gamekult, moi les premiers temps, il y a longtemps, où je voulais aller sur le site, j'avais accès à quasiment rien, il fallait payer pour accéder à certaines choses, et c'est plus tard qu'ils ont, eux ils ont désabonné entre guillemets, pour voir ça, voilà, ils ont proposé un désabonnement, je sais pas comment dire, mais on n'avait plus besoin de s'abonner par la suite pour accéder au forum ou à des tests ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Gamekult?
Ouais. Ce qui s'est passé, ils ont été rachetés, tout simplement, et ils ont été rachetés par le groupe CNET. Qui leur a fourni, on va dire, certainement des serveurs, des locaux, un salaire à tout le monde, et puis pour pouvoir continuer à vivre et à continuer à faire vivre le site Gamekult.
Et alors, faut rappeler d'ailleurs, tu fais très bien de parler des gens qui ont racheté, des boîtes qui ont racheté ces sites-là, notamment jeuxvideo.fr, faut pas oublier qu'il y a M6 qui est derrière.
Oui. Et M6 est derrière, et Clubic. Ouais. Enfin, Clubic.
Ouais. Et jeuxvideo.com, je crois que c'est une grande régie pub, dont j'ai oublié le nom.
Nextway.
Ouais, enfin, je crois pas que ce soit celle-ci. En tout cas, c'est une grosse régie publicitaire qui est à la tête du groupe jeuxvideo.com, en tout cas qui a racheté jeuxvideo.com, les parts de jeuxvideo.com. Donc c'est effectivement Gameblog, finalement, avec Ankama, c'est assez sain, comme on va appeler ça, un partenariat. Et effectivement, s'ils veulent garder leur indépendance, c'est-à-dire pas se faire racheter par un grand groupe publicitaire, parce que c'est souvent ce qui se passe, finalement c'est peut-être une solution peut-être plus.
Mais c'est une solution temporaire pour moi. À mon avis, ils vont se faire racheter aussi, parce qu'on peut pas vivre simplement sur des abonnements. C'est trop aléatoire. On voit le cas de No Life, hein. Ils essayent de survivre avec les abonnements, mais ils pourront pas continuer à vivre avec des abonnements. Il y a que Canal+ qui arrive.
Moi, ce que je voulais savoir, selon toi, Shoham, là, j'avançais des chiffres d'audience. On sait à peu près comment ça fonctionne, la publicité sur Internet. Même si, on le sait, il y a une espèce de crise. Il faut pas se leurrer, hein. C'est pas parce qu'on a 500 000 personnes qui viennent sur un site qu'on va gagner de l'argent. On sait qu'il faut beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup d'auditeurs, beaucoup de personnes qui viennent sur un site pour que ce site engrange quelques monnaies. Mais selon toi, malgré tout, les chiffres d'audience que j'ai mis en avant tout à l'heure doivent permettre de faire entrer pas mal de thunes quand même dans la caisse de Gameblog.
Oui, mais peut-être pas suffisamment. Payer tous les pigistes, pour pouvoir payer effectivement les serveurs, les gens qui sont aussi employés dans la société, qu'on ne voit pas forcément. c'est-à-dire le comptable, tout ce qui est administration, etc. Donc il y a des gens qu'on compte pas, mais qui sont aussi payés et qui coûtent cher.
Donc si on revient, alors, mais en même temps, comment est-ce qu'ils ont fait donc pour vivre jusqu'à aujourd'hui?
Parce qu'ils n'avaient pas besoin de tout ça avant d'engendrer plus d'argent.
Ouais, et puis on voit quand même l'évolution du site.
Quand on commence à gagner de l'argent, beaucoup d'argent en France, de toute façon, au moins il faut payer les charges, etc. Quoi.
Ouais, et puis on voit aussi. Pardon, vas-y Panda.
Non, je me dis juste qu'ils ont besoin d'argent après avoir ajouté énormément de choses sur le site qui n'étaient peut-être pas forcément importantes dès le départ. Enfin, d'ouvrir une plateforme de blog pour les visiteurs, c'est bien, mais en même temps. Moi, je dis ça parce que j'y vais pas, hein, mais. Je me dis peut-être qu'ils sont un peu trop gourmands et que du coup ils ont besoin aussi d'argent maintenant pour assumer toutes les fonctionnalités qu'ils ont voulu ajouter sur le site.
Alors ça c'est très intéressant ce que tu dis Panda, en plus je pense un petit peu comme toi, donc à la question, si ça avait été une question Gameblog, a-t-il besoin de vous ? Toi Shoham, t'aurais tendance à dire que oui, c'est une évidence commerciale et financière.
Évidemment.
Moi, peut-être, pourquoi pas, moi je lis quand même qu'il s'agit pas aujourd'hui de sauver Gameblog et on va le voir plus loin, mais de pouvoir acheter du contenu supplémentaire. En gros, ce qu'ils proposent, c'est, ils le disent, d'ailleurs on a la réponse, voilà la phrase suivante, après donc Gameblog a besoin de vous, oui, Gameblog progresse, donc c'est ce que tu disais Panda, Gameblog effectivement ne s'est pas endormi, a proposé des nouvelles choses, hein. On le sait, de nouvelles émissions, des web TV, Gameblog TV d'ailleurs ça s'appelle, la possibilité de créer son blog, enfin voilà, beaucoup de choses qui sont un petit peu secondaires en soi, qui n'étaient pas vitales au site, enfin je pense. Peut-être que je me trompe. Et alors donc, leur phrase est « Oui, Gameblog progresse, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour assurer son avenir, pour enrichir le contenu de Gameblog et donc vous ouvrir un site toujours plus complet. Gameblog s'apprête à lancer des abonnements premium. » Donc, en gros, ils veulent pas simplement sauver ce qu'ils ont déjà créé, ils veulent en rajouter et faire payer pour avoir accès à ce qu'ils vont rajouter. Moi, je le lis comme ça.
Ouais, mais quand ils disent « assurer son avenir », ça veut bien dire ce que ça veut dire. Assurer son avenir.
Ils le disent aussi, oui.
Voilà. Donc ça fait partie aussi du but. Mais pour moi, ils prennent la même direction que Gamekult. Gamekult, ça s'est passé exactement comme ça. C'est-à-dire que c'est un petit site qui a commencé, qui était indépendant, qui essayait d'en rajouter de plus en plus de contenu, de plus en plus de fonctionnalités. Ils ont rajouté les bunks, après ils ont rajouté le système de blog. Et effectivement, il y a eu cette période où ils ont demandé un période d'abonnement premium pour accéder à des articles, à des vidéos, etc. Jusqu'au jour où ils ont été rachetés pour pouvoir ouvrir tout ce qui était payant à tout le monde et ainsi supprimer, entre guillemets, les abonnements.
D'accord, donc faire un petit peu marche arrière.
Voilà.
Moi, je voulais revenir sur le sondage qui accompagne aussi l'article, hein, qui l'accompagne et qui propose pas de savoir, en fait. Et j'ai l'impression qu'il s'intéresse, enfin, il s'interroge même pas sur comment un site comme le nôtre, qui a l'identité qu'il a, le passé qu'il a, comment cette annonce va être prise, digérée par nos auditeurs, nos lecteurs assidus, nos fans. Ils ont un peu oublié cet aspect-là. C'est un peu tombé comme un cheveu dans la soupe, quoi. Ce truc-là. Enfin, c'est le sentiment que j'ai.
C'est clair. Et c'est un peu différent, mais c'est que je trouve que la proposition qui est faite par rapport à l'abonnement payant est pas super super intéressante.
Alors, j'ai pas le détail sous les yeux, malheureusement. Est-ce que toi, tu peux nous dire
oui,
un petit peu,
voilà, il propose de supprimer l'intégralité de la pub sur le site. Ce qui, en soi, moi, soit la pub ne me gêne pas, soit j'ai ce qu'il faut en extension navigateur pour la supprimer. De personnaliser encore plus les plateformes de blog, d'avoir accès à certains contenus avant la publication, d'avoir un podcast qui soit disponible en vidéo live pendant l'enregistrement, un chat vidéo avec l'équipe, une édition PDF hebdomadaire des meilleurs articles publiés et un forum premium.
Et toi, ça te séduit ce truc-là ou pas ?
Bah franchement, pas du tout, enfin alors, pas dans l'utilisation que j'ai aujourd'hui de Gameblog.
Et ça rejoint beaucoup de commentaires, hein. Moi j'en ai retenu un justement qui dit la proposition pour les abonnés, je la juge relativement inintéressante. Donc tu lisais les skins pour les blogs, etc. Ils auraient préféré la plupart un changement dans la ligne éditoriale qu'on leur propose peut-être ce qui fait l'essence, l'identité de Gameblog et pas tous ces accessoires, ces petits gadgets. Moi je le sens parce que c'est un peu ça, c'est assez gadget, c'est du plus, mais vraiment on peut s'en passer. Moi j'ai l'impression que c'est un peu l'Ankama Touch, hein, ce truc là il y a un vrai format Ankama. Moi je trouve que Ankama, on sent qu'il est derrière sur le coup, cette solution là de micro-paiement avec une zone gratuite et une zone payante si vous en voulez plus, et le plus qu'ils proposent c'est des petits items à droite à gauche. Je sais pas ce qu'en pense Shoham, mais moi, ça me fait vraiment penser à ce qu'Ankama a mis en place sur Internet avec ses jeux.
Maintenant que tu me le dis, ouais, effectivement, ça a l'air d'être un peu ça, ouais. Effectivement, Ankama, avec la attention, si tu veux, ton arme supplémentaire qui fait plus 3 au lieu de plus 1, paye.
Ah, tu peux jouer au jeu. Voilà.
On appelle surtaxé.
Tu peux jouer au jeu, mais tu peux aussi dépenser 2 euros pour pouvoir avoir ton arme surtaxée. Ouais, c'est tout à fait ça. Est-ce que t'avais vu les choses comme ça, Panda?
Oui, et puis, enfin, je sais pas. Je trouve qu'ils vont, à mon avis, ils vont dans le mur, quoi. Parce que d'avoir dit ça, déjà, c'est pas super intéressant sur l'offre proposée. Et qu'en plus, ils viennent de se griller certaines cartouches vers ceux qui aimaient le site et qui ont, à mon avis, là, sont rendu compte qu'ils étaient face à des gens qui étaient voilà qui était plus dans le même comment dire le même credo qu'ils avaient au départ
quoi. Ouais, ça veut dire quoi que le public leur public en fait ils le connaissent pas bien, ils se sont plantés apparemment. Faut voir la suite, mais apparemment moi j'ai vu très très peu d'avis positifs. Alors certains bien entendu dire moi j'aime Gameblog, je suis prêt à vendre femmes et enfants pour pouvoir les soutenir, il y a pas de problème. D'ailleurs la plupart des gens, même ceux qui n'aiment pas trop l'idée de l'abonnement en plus appelé premium, c'est pas terrible. La plupart sont quand même prêts à les soutenir. Disent en général, s'ils font un appel aux dons, s'ils ont besoin d'argent, moi je veux bien filer 3 euros, ça me gêne pas. Donc il y en a quand même qui sont prêts à aider, mais qui n'aiment pas la façon dont ça a été amené. Et puis d'une manière générale, j'ai l'impression les orientations prises par Gameblog. Enfin bon, on n'est pas là pour les juger, je vais continuer le texte. Alors, il rajoute, donc après ce que je disais donc juste avant, Gameblog s'apprête à lancer des abonnements premium. Attention. Donc d'ailleurs, Gameblog s'apprête à lancer des abonnements premium. C'est bien ce que je disais, ils s'apprêtent à le faire. Ils annoncent clairement, on va le faire. Donc c'est même pas une question posée au lecteur. Attention, le premium, ne retirera rien de l'expérience actuelle du site. Donc en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Gameblog va pas changer, mais permettra juste à ceux qui souhaiteront soutenir Gameblog d'obtenir des avantages supplémentaires. En clair, rien de moins qu'aujourd'hui si vous ne souhaitez pas être premium, mais plein de bonus pour ceux qui nous soutiendront. Donc que ce soit bien clair, le contenu actuel de Gameblog ne deviendra pas payant. En gros, Gameblog va progresser, mais seulement pour ceux qui paieront. C'est un peu ça. Là, c'est moi qui le rajoute, ça. Hein. C'est pas dans le texte. Moi, je trouve que c'est une forme de chantage, limite, commercial. C'est en gros, vous en voulez plus, faudra payer maintenant. Mmh. Je suis un peu
c'est
radical.
C'est dangereux comme manière de faire, je trouve. Parce que il y a aujourd'hui, dans cette proposition, aucun intérêt de payer plus.
En plus,
à part se traîner une sale image, je trouve que c'est une...
Ouais, ça
une
fait action. Un peu, tu veux participer à notre podcast, paye ta place. Tu veux assister, tu veux chatter dans le podcast, paye ta place. J'irai plus loin, moi je trouve que c'est presque un comportement commercial de dealer. Bon, c'est très utilisé de toute façon, de manière générale en commerce, mais en gros, tu fais goûter le produit, tu donnes le produit même parfois, et puis, quand t'as bien accroché le client, quand il est bien fan du truc... Là, tu le fais payer et tu lui en demandes plus.
Il y a d'autres sites qui fonctionnent sur ce principe-là, ce sont les sites porno.
Oh, c'est un peu... j'aurais pu. Oui.
Non, mais c'est un peu fort de dire ça, mais c'est un vrai, principe. Ouais. On t'en donne un petit peu et pour le reste, faut que tu payes. Mais parce que d'autres sites payants, à part des vrais sites de news comme Le Monde ou ce genre de choses, il y en a pas énormément finalement. Donc,
ton avis?
En tout cas, j'ai l'impression que c'est une première aujourd'hui. Enfin, à part le cas Game Cult, mais on... c'est un peu une première, quoi. Limite, je me demande si c'était pas plus intéressant qu'il se fasse racheter plutôt que de jouer là-dessus. Alors après, il y a toute cette...
Disons que NoLive, ça passait mieux. Tu prends l'exemple de NoLive, ça passait mieux. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne de télévision qui est en plus sur des services où il y a déjà plus ou moins des abonnements. C'est pas le genre de chaîne vers lequel auquel tu as accès facilement. Donc, ça a beaucoup moins choqué. S'abonner pour NoLive.
Et en plus,
pourquoi pas?
Pour NoLive, c'est différent parce qu'en plus de ça, le message de NoLive était assez clair. On est en danger.
On est en danger. Sauvez-nous. C'était sauver NoLive.
Si vous abonnez pas, on peut mourir.
Et puis surtout que NoLive avait expliqué pourquoi ils avaient besoin d'argent, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à être maqués avec les régies publicitaires parce qu'ils n'étaient pas diffusés sur TPS et Canal+7. Mm-hmm. Et du coup, ils ne pouvaient pas avoir les mêmes avantages que d'autres chaînes du câble.
Oui, ils étaient face à une espèce de blocus des possibilités. L'argent qu'ils auraient pu gagner grâce à la pub, c'était bloqué à cause de ça.
Voilà, et au moins, on savait pourquoi ils étaient en danger, on savait pourquoi on pouvait les aider. C'est-à-dire que là, c'est assez flou finalement sur les raisons. Tu vois, donc, je trouve que c'est pas très habile en fait comme manière d'avoir fait.
Mais en gros, là, ce qui se passe, c'est en gros, et d'autant plus quand on lit les derniers, Ankama se rapproche de Gameblog, Gameblog cartonne. Waouh, il y a récemment, c'était la fin d'année dernière. Ouais, on est à la botte de jeuxvideo.com, on est juste derrière eux. Bon, déjà, je pense qu'il y a pas un concours entre les sites. Enfin, en tout cas, s'ils rentrent là-dedans, c'est dommage. Et au-delà de ça, c'est vraiment, en gros, le message, c'est on est super, on cartonne, vous êtes de plus en plus nombreux, on est génial, on fait de la télé, on passe sur MCM, c'est énorme ce qui nous arrive. Maintenant, payez parce qu'on en a besoin. C'est quand même super contradictoire.
Il faudrait plus de clarté, en fait, sur le message, savoir pourquoi on a besoin de payer. Qu'est-ce qui se passe?
Et je pense que
c'est parce qu'ils sont
Vas-y, dis-moi, pardon.
Au vu des réactions qu'il y a aujourd'hui dans le forum, clairement, je pense qu'ils vont revenir vers nous pour nous en dire plus ou peut-être faire sauter les choses ou proposer un contenu premium plus intéressant. Mais
on sent bien que c'est obscur parce que les gens se posent beaucoup de questions. Certains ont compris que Gameblog était dans la merde et qu'il allait falloir les aider, un peu comme No Life. D'autres se disent carrément oui, voilà, c'est simplement on veut nous faire banquer maintenant, voilà, c'est tout. Donc on sait pas. Et certains, alors j'ai relevé deux trois commentaires. Alors il y en a un qui dit je ne suis pas contre l'idée d'un abonnement s'il se présente comme des abonnements support qui feraient office de dons légaux. Or là, ils mettent même pas en avant l'idée d'un don, c'est en gros, on va vous offrir des goodies payants. En gros, c'est ça. Des goodies payants sur Gameblog.
Ouais. Bah, il y avait déjà, moi, c'est un truc qui m'avait commencé un peu à me frapper, c'était la vente de t-shirts Gameblog hors de prix.
Bon, ça, à la limite, ça se fait beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de blogs, petits ou grands. On a même Game Radio pourrait demain faire des t-shirts. On n'en vendrait pas beaucoup, à mon avis. Mais ça se fait. Ça, à la limite. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais à la limite, ça, pourquoi pas. Le merchandising, comme ça, autour d'un site, entre guillemets, très influent ou d'un blog influent, pourquoi pas. J'ai relevé un autre commentaire, tiens, Gameblog devrait, et ça rejoint tout à fait ce que tu disais tout à l'heure, Panda, Gameblog devrait se contenter de l'essentiel pour réduire les coûts. Effectivement, on pourrait se dire, est-ce qu'il pourrait pas, à la limite, arrêter, je sais pas, les Versus, la Gameblog, pourquoi leur Web TV, pourquoi l'enlever, faire peut-être plus de podcasts audio, parce que ça, c'est un des trucs qui cartonne et qui marche très bien. Se concentrer sur l'info, revenir à ce qui faisait peut-être l'essence. Je vais pas juger le contenu éditorial, je serais mal placé pour le faire, mais certains des auditeurs de Gameblog mettent en avant le fait que le site, dans son contenu, a vraiment changé, et apparemment, pour eux, en tout cas, pas en bien. Voilà, est-ce qu'effectivement, ils auraient pas dû élaguer un peu et se dire, bon, allez, on laisse ça. C'est ce qui se passe souvent dans certaines entreprises qui marchent pas bien. On ferme certains secteurs d'activité.
Je suis assez d'accord avec cette idée de peut-être moins s'éparpiller et de revenir vers ce qui faisait leur force au départ. C'était une liberté de ton et voilà, c'était que des gens qu'on connaissait si on était un peu lecteur de Joypad à l'époque et c'est tout ça qui faisait qu'on aimait Gameblog.
En tout cas, moi, il y a un des trucs qui m'avait toujours, je le dis clairement aujourd'hui, gêné. Bon, à notre échelle, une fois de plus, je le répète, sur Game Radio, j'aimerais vraiment pas que ça arrive. C'est ce côté, ça n'arrivera pas à mon avis, parce que je suis loin d'avoir le charisme d'un Julien C. Mais ce côté fanboyisme qui a à l'encontre des journalistes qui travaillent dans le jeu vidéo. Et je crois que Gameblog, ils ont vraiment poussé ça. D'ailleurs, c'est le blog qui veut ça. Hein, c'est le côté blog. Ils ont poussé ça à son paroxysme. Ce sont vraiment devenus des journalistes un peu starifiés, plus que finalement le contenu, quoi. T'écoutes pas forcément un podcast de Gameblog pour ce qu'il y a dedans. Tu vas pas lire un article de Julien C pour l'article. Tu vas le lire parce que c'est Julien C.
Comme le fait qu'ils créent un stand Gameblog où on peut les voir sur des salons, sur ce genre de choses, avoir des t-shirts dédicacés. C'est vrai que c'est un côté un peu star system de la sphère blogueste.
Ouais. Alors là où je voulais en venir, c'est qu'à mon avis, cet abonnement premium, s'adresse vraiment à ces gens, à ces fans, à ces gens qui sont prêts à payer pour avoir le t-shirt plein de sueur de Julien C, par exemple. Et d'ailleurs, il devrait y penser. Le peigne, tu vois, le verre d'eau, le téléphone de Raon, par exemple, je sais pas. Non, il devrait faire une vente aux enchères, ouais. Ça pourrait être intéressant. Faudrait leur proposer. Ils auraient... Pourquoi pas? Pour vous, Gameblog, c'est quoi aujourd'hui, d'ailleurs? Parce qu'on s'y perd un peu, c'est vachement tentaculaire, tu le disais, il y a beaucoup de choses. C'est un podcast, c'est Gameblog TV.
J'ai un problème avec la nouvelle maquette du site, c'est que j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à retrouver une info sans passer par le moteur de recherche. C'est aussi le principe du blog, quand j'arrive sur la homepage, il y a trop de trucs, quoi. Et du coup, c'est pour ça que moi, leur site, je le consomme uniquement par flux RSS, dans un petit net vibes que j'utilise en page d'accueil de mon navigateur. Et je suis abonné à leur podcast via iTunes et ça s'arrête là, donc j'ai l'impression de piocher dans ce qui m'intéresse et tout le reste c'est vraiment de l'accessoire, donc voilà, c'est peut-être une consommation particulière que je fais du site, mais c'est pour ça que le côté premium s'adressera de toute façon pas à moi, mais ça m'empêche pas de critiquer un peu la démarche.
En tout cas, moi je pense qu'ils ont un problème peut-être d'image, ils sont peut-être victimes de leur côté le blog paradisiaque, t'as l'impression que tout est beau, tout est merveilleux, c'est génial, on a le sourire, et que derrière, ouais, peut-être c'est finalement pas si rose que ça.
C'est vrai que l'image s'effrite un peu là, effectivement.
Moi, je voudrais revenir un petit peu sur l'offre qu'ils font, et je voudrais surtout le comparer à ce que voulait faire Sony, peut-être ce que va faire Sony avec son abonnement réseau. Je sais que le réseau est gratuit, le PSN est gratos,
ouais,
le multi est gratos. vraiment Xbox Live, et ils voulaient faire un abonnement premium, avec non pas la possibilité de jouer en multi, ça restera gratuit, mais avec des bonus en plus, comme par exemple assister à des avant-premières ou avoir des démos de jeux peut-être encore plus en avance, et ou avoir des photos dédicacées entre guillemets de des créateurs de jeux, etc. Enfin, ils avaient en projet de le faire. Et finalement, c'est passé dans l'oubli. Ça veut peut-être dire que finalement, ça n'a pas eu le succès ou l'intérêt qu'ils voulaient en faire. Est-ce que, bon, je peux pas comparer Sony à Gameblog, évidemment,
non,
mais
c'est sûr.
Ça se rapproche un petit peu dans le genre goodies, tu vois.
C'est vrai. C'est, ouais.
En fait, je pense que ce qui passe mal chez les utilisateurs, c'est le fait que quelque chose qui était gratuit ne le devienne plus. Sur le Xbox Live, dès le départ, il y a une offre payante, et puis la plupart des gens le font avec limite plaisir, parce qu'il y a quand même pas mal d'avantages, mais le fait qu'on te donne quelque chose, c'est un peu comme tu parlais de la drogue tout à l'heure, Gus, c'est le fait qu'on change l'état de quelque chose. Je trouve que ça passe beaucoup moins bien que de le proposer dès le départ à la création du site.
Enfin, en même temps, pour leur décharge, ils proposent de laisser aux gens qui seront pas abonnés le site tel qu'il est aujourd'hui, en fait.
Oui, hein, s'il faut, c'est vrai.
Voilà. Donc, c'est juste les petits bonus en plus pour lesquels il faudra payer éventuellement. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est très dur de vivre de la publicité. En même temps, on l'a dit tout à l'heure, avec l'audience qu'ils ont, y a quand même des rentrées d'argent qui doivent être agréables. Moi, je vais prendre le cas de Game Radio, tiens, juste pour en parler deux secondes. Game Radio, ça coûte pas très cher, bien entendu, hein, ça avoisine les 70€ par mois, 80€ par mois. Et l'audience, par contre, elle est très très en dessous, hein, de Gameblog, très 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 loin derrière, tout petit. Je crois que ça avoisine à peu près, allez, en étant gentil, hein, les 300 auditeurs par jour, unique, hein. Et la pub, je crois que là, depuis, je crois que le plus que Game Radio ait dû gagner en pub, ça a dû être l'année dernière, 15€ sur 3 mois, grâce à la publicité.
Oui.
Voilà. Les dons, ça représente 0€, bien entendu. Merci, chers auditeurs, en passant. Voilà, donc, non, voilà, c'est flagrant. C'est vraiment très très dur de vivre de la pub. D'ailleurs, sur Game Radio, il y a plein de fois où moi j'ai viré la pub en me disant, ça sert à rien, de toute façon, avec ce qu'on gagne, autant de pas en mettre. Bien bah, sûr. Finalement, 15€ en 3 mois, ça paye une partie du serveur, et finalement, pourquoi pas? Donc, je veux bien croire, et c'est vrai, c'est une réalité, c'est très difficile de vivre aujourd'hui d'Internet. Ça, c'est une évidence.
C'est très difficile, surtout dans cette période de crise. Car ce qu'on voudrait, la crise n'est pas terminée, et les plus touchés, évidemment, c'est la pub. On va y avoir travaillé pendant quelques temps. La pub est en crise, et on ne gagne plus autant d'argent avec la pub qu'avant, et ça va continuer encore pendant quelques années.
Donc, ce qui est certain, c'est que si certains sites veulent continuer à vivre, il faut qu'ils trouvent d'autres solutions. Alors, je sais pas s'il y a d'autres solutions que celle de proposer un abonnement ou un formule de don. C'est vrai, tiens, par exemple, tu prends l'exemple de Game Radio. Si les 100 personnes qui écoutent nos podcasts nous donnaient 1€ tous les mois, ça ferait 100€ et ça paierait l'intégralité du serveur. Et donc, pour nous, finalement, ça nous coûterait rien. Parce qu'il faut le dire, hein, aujourd'hui, Game Radio, bah, c'est une dépense, hein. On n'en vit pas, un. Et deux, au contraire, c'est un investissement pour nous. Bon, mais c'est pas grave, parce qu'en soi, on le fait c'est un vrai plaisir et puis on a envie de le faire. Ça, c'est pas un problème. Là où je veux en venir, par contre, c'est que dans le cas de Gameblog, imaginez vu leur audience, donc on va dire à peu près 1 million d'auditeurs par mois, t'en prends, allez, un quart qui s'abonne ou qui donne 1€ par mois, je sais pas si vous faites le calcul, quoi, ça fait à peu près 250 000 euros, si je ne me trompe pas. Donc c'est vrai que c'est considérable.
C'est clair. Ils vont nous faire un truc à la Fondation Wiki, comme certaines fois, où on a un appel aux dons mondial, comme ça, pour continuer de vivre, qui passe finalement mieux que,
oui,
que cette méthode-là, quoi.
Ouais, mais moi, le bouton faire un don, j'ai hésité, je me suis dit pourquoi pas. Et en même temps, voilà, j'hésite d'autant plus que ça sert à rien. Personne ne donne, et je le comprends. Moi-même, je donne pas quand je vais sur des sites. C'est pas un réflexe que j'ai, je le ferai pas. J'aurais même pas confiance. On se demande souvent ce qu'il y a derrière. Donc, le don, c'est vrai que c'est un peu, je suis même pas certain que les auditeurs de Gameblog qui disent, ouais, ce sera un format de don, je donnerai, machin, je suis même pas certain qu'ils le feraient réellement. Tant qu'on a accès à du gratuit, et on le voit bien aujourd'hui sur Internet, on n'achète même plus beaucoup nos DVD, nos films, nos disques, hein, donc.
Moi, j'avais pensé à mettre de la pub sur Gamerside, mais ça aurait été dans la continuité de ce qu'on fait, c'est-à-dire des fausses pubs avec des faux trucs liés aux fausses vannes qu'on balance dans nos podcasts. Tout ça dans une espèce de logique d'auto-référencement de nos propres blagues, en fait.
Ouais, et vous auto-payez aussi, peut-être, grâce à votre auto-publicité.
C'est un peu pourri en faisant des espèces de bannières en gif animé un peu à l'ancienne. bien criarde.
Oui, bah c'est que votre ouais voilà, votre optique est ailleurs. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est vrai, sur Game Radio, c'est au moins payer peut-être le serveur et puis avoir des moyens supplémentaires pour pouvoir acheter du matos qui nous permettrait d'avoir une meilleure qualité de son, pouvoir nous déplacer sur certains événements plus facilement. On sera pas à l'E3, on sera pas forcément voilà. Donc on trouve des solutions, hein. On en a trouvé déjà, mais c'est vrai que on est un site qui a pas de moyens. Enfin bon, on n'était pas là pour parler de Game Radio ou de Gamerside, mais dans le cas de Gameblog, effectivement, l'abonnement, en tout cas, s'il s'agit de les sauver, c'est il n'y a pas d'autre solution. C'est là où je voulais en venir. Si on doit chercher d'autres solutions pour... Ah si, j'en ai peut-être une pour eux. Ils ont dû y penser, je ne sais pas s'ils l'ont fait. Et je suis surpris qu'ils ne le fassent pas aujourd'hui. C'est pourquoi ne pas mettre aussi de la publicité en début de podcast ?
Alors, j'en ai entendu une fois. Alors c'était très bizarre, un jour où j'avais téléchargé le dernier podcast et que je l'écoutais dans les transports en commun, où au tout départ, tu as Julien C qui te fait la promotion de, je pense que c'était Forza Motorsport 3 sur Xbox, et il te dit comme ça, ce jeu et ce podcast vous est présenté par Forza Motorsport 3. Ça prend 5 secondes et c'était très bizarre. Alors j'avais pas été sur les forums, mais à mon avis il a dû se faire tailler pour ça, parce que c'est
malvenu. Il aurait mieux fallu prendre une pub toute faite par quelqu'un d'autre, à la limite, qu'on insère au début, et tu donnes le sentiment que tu gardes ton intégrité. À mon avis il la garde malgré tout.
C'est Julien C qui fait ça, c'était bizarre.
Ouais, c'était peut-être pas lui de le faire, mais c'est ce qui se fait dans la blogosphère. Quand il y a de la pub au début, ben t'entends, là par exemple, si Game Radio devait avoir de la pub, t'entendrais certainement Auguste qui ferait voilà, ce podcast vous est présenté en partenariat avec Gamerside par exemple, à moins de trafiquer ma voix, je sais pas.
Tu l'as déjà fait, hein.
Oui, je l'ai déjà fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur Gameblog, à part qu'on va suivre ça de près, on essaiera d'en parler un petit peu, peut-être tous les jours, on verra, en fonction de ce qui se passe autour de cette histoire. En tout cas, moi, je leur souhaite longue vie, parce que, qu'on le veuille ou non, ils proposent quand même quelque chose, et je sais ce que c'est, il y a énormément de boulot derrière, je veux vraiment que les gens le sachent. C'est, quand on voit ce qu'ils arrivent par semaine à rédiger au niveau du contenu, le podcast, tout ce qu'ils font, c'est quand même beaucoup de boulot. À mon avis, ils doivent se la donner énormément. Et rien que pour ça, ils méritent, je sais pas quoi, qu'on les aide peut-être, qu'on s'abonne, j'en sais rien. Je sais pas trop quoi dire. En tout cas, ils méritent de continuer, ça c'est évident.
C'est clair. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a pu paraître un peu sévère aussi dans notre jugement, mais c'est, on est aussi des consommateurs de Gameblog, et à ce titre, on a forcément un avis, quoi. Donc, pour autant, ça empêche pas. Moi, ça retire rien à la qualité que je leur attribue, parce que c'est peut-être une des principales sources d'information que j'utilise aujourd'hui. Même si je suis abonné à plein de flux, c'est celle vers laquelle je me tourne le plus volontiers.
Moi, j'utilise pas trop Gameblog. Moi, je suis très Gamekult, en fait. Je suis beaucoup plus que fait Gamekult que Gameblog, donc je suis un peu vers la concurrence, moi.
Et étrangement, d'ailleurs, voilà, je trouve que Gamekult, parfois, on parle d'intégrité, je trouve que Gamekult est plus intègre que Gameblog. Je me permets de dire ça en passant.
Et dans certains articles aussi, c'est pour ça que je les lis beaucoup plus que Gameblog. Pour moi, je suis complètement à côté de cette starification qui m'agace un peu.
J'irai plus loin en utilisant qu'on avait une source interne à une société de jeux vidéo qui nous avait parlé de Gamekult en disant que généralement ils étaient difficiles à convaincre, si tu vois ce que je veux dire.
Oui, bien sûr, tout à fait. Et ils ont raison.
Et c'est ils se sont illustrés sur le cas Heavy Rain dernièrement où Sony était pas content de la note qu'ils leur ont mis, et je trouve ça bien justement qu'il y ait des petits résistants comme ça dans le paysage de jeux vidéo français.
Voilà, en plus de Gamerside et de Game Radio. Non, nous on n'est pas résistants. Oh là là, les vendus Game Radio. Très bien. Bah écoutez les gars, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast, le 53e. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Panda, je pense pas que tu seras avec nous. En tout cas, la porte est grande ouverte. N'hésite pas, tu reviens quand tu veux, tu es chez toi. Voilà. On te retrouve bien entendu sur Gamerside très régulièrement, puisqu'il y a en plus des podcasts, des articles souvent intéressants. D'ailleurs, c'est grâce à vous ce matin au réveil que j'ai su que Gameblog avait publié ce qu'il a publié hier soir. Je vous en remercie. Vous êtes devenu ma première source d'information.
Ça fait toujours d'ailleurs bizarre, j'en profite pour te le dire, c'est toujours un peu étrange de passer sur ton site et de se dire tiens, là, à l'heure dite, c'est nous qui passons. Ça fait toujours un peu bizarre comme ça d'être diffusé. C'est super génial, mais ça fait plaisir.
Eh ben écoute, tant mieux si ça vous fait plaisir, au moins à vous. Je pense que ça fait plaisir à beaucoup de monde. Hein. Les auditeurs apprécient énormément vos podcasts. J'ai des retours et vous faites l'unanimité. Voilà, on se retrouve demain. Choam, bien entendu, tu seras là. Donc soyez au rendez-vous demain aux alentours de 18h sur Game Radio. À demain, ciao, bonne soirée, bon jeu, à bientôt.
Bye bye.
Ciao, bye bye.